Le budget primitif de la Nouvelle-Calédonie a été voté ce matin. Il s'élève à 387 milliards 400 millions de francs. Il est notamment marqué par des baisses de dépenses publiques. Sonia Backès et Christopher Gigès visitent des entreprises victimes des exactions de mai dernier. Chacune a reçu des aides exceptionnelles de la province sud pour tenter de se relancer. Il y a cette année moins d'étudiants à l'Université de Nouvelle-Calédonie, l'UNC, qui subit encore les impacts négatifs des émeutes, comptabilise 12% d'inscriptions en moins. Victime lui aussi des émeutes de l'année dernière, comment le secteur du commerce traverse la crise actuelle? C'était le sujet des jeudis de l'économie ce midi, extrait à suivre dans ce journal. Le sport avec du tennis, deux Calédoniens sont engagés sur le circuit ITF aujourd'hui. Leilani Ipounesso s'est incliné en 2-7 en début d'après-midi en Australie. Maxime Chazal jouera quant à lui à 19h30 en Espagne. Bonsoir à tous, bienvenue dans InfoSoir pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique. Le budget primitif de la Nouvelle-Calédonie a été voté ce matin par le gouvernement. On retiendra une baisse significative des dépenses publiques, un maintien des opérations d'investissement et une pression fiscale qui n'augmentera pas pour les Calédoniens. Charlotte Coulson.
Après deux jours de discussion, une majorité a finalement été trouvée ce matin au gouvernement. C'est un budget de 387 milliards 400 millions de francs qui a été voté, marqué par une baisse des dotations aux collectivités publiques. Elles recevront cette année 11% de ressources en moins par rapport à 2023. Dans le détail, les dotations allouées aux provinces sont en 2025 de 56 milliards 500 millions de francs, soit une baisse de 6 milliards 700 millions par rapport à 2023. La province sud reçoit ainsi un peu plus de 27 milliards 800 contre 31 milliards en 2023. Les communes sont aussi impactées, avec plus de 3 milliards de dotation moins par rapport à 2023. Une subvention exceptionnelle d'1,5 milliard prise sur les dotations du gouvernement est toutefois programmée pour soutenir les communes. La masse salariale de la Nouvelle-Calédonie sera quant à elle diminuée de 1,2%. En bref, l'effort est collectif, comme l'a rappelé le président du gouvernement, Alcide Ponga.
On a des conditions qui sont vraiment contraintes, on a des défis à relever. Tout ce qu'on a subi l'année dernière a fait que aujourd'hui les recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie sont en grande diminution et donc nous n'avons plus les recettes qu'il faut pour pouvoir financer l'ensemble des dépenses que l'on avait au niveau 2023 par exemple, et donc il faut que tout le monde fasse des efforts, donc que ce soit sur l'ensemble des directions de la Nouvelle-Calédonie, sur les financements dus aux associations ou des dettes que la Nouvelle-Calédonie a vers certaines collectivités. On a été obligé de discuter pour essayer de réduire ces dépenses-là et pour pouvoir atteindre un budget équilibré.
Des efforts qui permettent au gouvernement de maintenir les opérations d'investissement. 7,2 milliards ont été dégagés pour financer, par exemple, l'entretien des équipements routiers, mais aussi l'enseignement avec la reconstruction du lycée Petro Atiti ou encore la rénovation du lycée agricole Michel Rocard. Un budget largement soutenu par le prêt garanti par l'État d'un montant de 119,3 milliards de francs. Comme l'explique Alcide Ponga, une grande partie de cette somme sera consacrée au remboursement des dettes de la Nouvelle-Calédonie.
Il faut noter aussi que avec l'aide qui est apportée par l'État, ça nous permettra d'assumer le budget de 2025. Je ne vais pas dire en toute sérénité parce qu'il est quand même contraint, mais voilà, cette aide va d'abord nous permettre de rembourser une bonne partie des fonds qui ont été attribués non seulement pendant le Covid, mais également l'année dernière. Donc on a à peu près, en termes de remboursement de dette, 52 milliards à peu près. Et tout le reste va être utilisé non seulement en 2025 et une petite partie en 2026 et 2027.
Et si l'on enlève cette somme déjà consommée pour des remboursements de dettes, il reste donc 45 milliards qui seront injectés dès 2025 dans l'économie calédonienne. Ils serviront notamment à renflouer le RUAM ou encore à financer les chômages spécifiques et de droit commun. Une partie est également dédiée au financement du système électrique. Les 24 milliards 700 millions restants du prêt seront répartis sur les années 2026 et 2027. 2027. Et notez qu'après un courrier envoyé par les institutions locales à Manuel Valls, cette utilisation de l'enveloppe de prêt a été validée par les services de l'État. Le budget primitif de la Nouvelle-Calédonie a donc été adopté ce matin à la majorité. Les groupes Unis et UC se sont abstenus. Il doit maintenant être présenté en commission des finances avant d'être examiné en séance publique par le Congrès vendredi prochain.
La prochaine étape, c'est d'abord la commission qui devrait se tenir sur 2 jours la semaine prochaine, lundi et mardi. La commission de finances du Congrès qui devra débattre sur la proposition qui a été faite par le gouvernement. Donc c'est démocratique, hein. On pourra enlever ici, rajouter là, ou enlever là et rajouter ici. Mais je vais dire que le budget n'est même pas extensif, ça sera du recalage s'il le faut. Vendredi prochain, ça sera la séance de vote du budget. Il appartiendra aux élus du Congrès de prendre la responsabilité pour valider ou pas le budget. Mais particulièrement cette année, ça sera un acte de responsabilité de l'ensemble des élus, parce que derrière, l'ensemble des collectivités attend que les budgets soient votés pour que l'on puisse lancer les travaux et chantiers qu'on aura à lancer chacun.
Le budget sera donc présenté ce vendredi 28 mars au Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Et il sera également question du budget de la Nouvelle-Calédonie demain midi dans le magazine Transparence. C'est Thierry Santa, le membre du gouvernement en charge des finances et du budget, qui sera demain midi l'invité d'Elisabeth Noir. Thierry Santa, invité de Transparence, une interview à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. La commission permanente du Congrès, réunie ce matin, a adopté 4 délibérations à l'unanimité de ses membres. Elle a ainsi approuvé le renouvellement du CNRT, le Centre de recherche sur le nickel, et habilité le président du gouvernement à signer la nouvelle convention constitutive. Elle a autorisé un échange de parcelles entre la Nouvelle-Calédonie et l'OPT. La commission permanente a également adopté une délibération relative aux inspections de l'air de mouvement d'un aérodrome. Il s'agit de rehausser un certain nombre d'exigences techniques pour se mettre au niveau des standards de sécurité internationaux émises par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie souhaite proposer un dispositif adapté aux besoins du marché calédonien de l'emploi. Il a examiné un avant-projet de loi du pays relative à la création d'un dispositif nommé Pass-emploi, destiné à remplacer les dispositifs existants liés à l'emploi. L'objectif est de simplifier les démarches des employeurs et des salariés, de bénéficier d'une plus grande souplesse et d'inclure plus de secteurs d'activité. Ce dispositif a pour vocation de soutenir la dynamisation du commerce local en renforçant la réactivité des employeurs face aux variations de demandes et en valorisant l'emploi local. Le Pass-emploi ne vise cependant pas la précarisation du monde du travail. Pour éviter ce phénomène, sa durée est limitée à 1 année, discontinue ou continue, sur une période de 12 mois consécutifs. La province Sud et le gouvernement de Nouvelle-Calédonie à la rencontre des entreprises victimes des exactions de mai dernier. Une tournée qui a débuté à Ducos, au snack Le Petit Resto. Sonia Baquès et Christopher Gigès ont échangé avec l'ancien gérant du restaurant Le Petit Grillardin, situé à Normandie. Malheureusement, durant les exactions, l'établissement qui venait de fêter ses 17 ans d'existence a été incendié, tout comme ses docks annexes et l'appartement du gérant. Grâce à un prêt de la banque et plusieurs aides exceptionneles, dont une de la province Sud d'un montant d'1 400 000 francs. Il a pu rouvrir en novembre dernier un nouvel établissement à Ducos. Une reprise difficile mais nécessaire, explique l'un des gérants du petit resto, Jean-Philippe Sionne.
Le 13-14 mai, ma vie s'est arrêtée. Donc j'ai plus rien aujourd'hui, donc maintenant il faut tout recommencer. Et à 60 ans, c'est pas évident. Le plus compliqué, c'était de trouver un local qui soit dédié à faire de la restauration. Alors il y a des fonds de commerce qui sont disponibles, mais bon, j'ai pas les moyens, j'ai pas les capacités financières d'acheter un fonds de commerce. Donc faire quelque chose, c'est sûr que Normandie, je pouvais pas, ça c'est clair. Mais Ducos, je me serais bien rapproché justement de Nouméa, mais là, les loyers sont trop chers. Même là, déjà ici, c'est pas donné, mais bon, Nouméa, c'est hors de prix. On a ouvert fin novembre. Disons que c'est compliqué quand même. Il faut tout refaire, il faut tout regagner la confiance des gens. Et puis, je suis pas magicien. Les gens, ils ont peut-être aussi tout perdu comme moi. Donc, il y a moins de sorties. Les gens vont peut-être faire attention. Est-ce que mes clients sont partis ? Il y a beaucoup de paramètres qui interviennent, en fait.
Seconde entreprise visitée, Bâtiment Prestige, spécialisée dans la construction de maisons. Une société en grande difficulté du fait de son secteur d'activité, mais aussi car elle ne rentre pas dans la plupart des critères d'attribution d'aide. Seule la province sud a versé 800 000 francs de subvention dans le cadre de l'aide d'urgence, de quoi couvrir une partie des salaires du mois de juin. Et si rien ne change, l'entreprise sera en cessation de paiement le mois prochain, souligne la gérante de la société, Fouzia Samalins.
C'est plus que de la difficulté financière, on n'a aucune perspective, un carnet de commandes à zéro depuis le 13 mai. Aujourd'hui, on finit les maisons sur lesquelles on avait des permis de construire avant les émeutes et depuis, on a zéro perspective. J'ai eu zéro aide de l'État. J'ai relancé à plusieurs reprises. En fait, ils se sont basés sur un RIDE, puisqu'on avait une situation administrative où on a fusionné deux sociétés. Donc, ils ont pris un RIDE qui était celui de la société mère et qui avait zéro chiffre d'affaires. Et ils n'ont pas souhaité aller plus loin, donc j'ai dû transmettre des documents supplémentaires, des états financiers, des justificatifs, et à ce jour, le dossier est toujours en instance.
Selon Christopher Gigès, membre du gouvernement chargé du secteur de l'économie, ces rencontres avec les chefs d'entreprise sont très importantes pour comprendre et adapter les aides aux besoins des sociétés.
C'est essentiel de faire du cas par cas, c'est essentiel de le faire en intercollectivité, donc on était avec la présidente de la province sud, parce qu'on a des compétences qui sont différentes, et donc on peut répondre au mieux à ces cas par cas. On a eu une personne qui était en reprise d'activité et qui doit être maintenant encore accompagnée sur la reconstruction de son bâtiment. On a des personnes, notamment sur le secteur du BTP, qui sont en fort ralentissement économique et là où on doit prendre des mesures particulières. Mais prendre des mesures tout seul dans son bureau sans se confronter à la réalité des gens, c'est pas ce qu'on veut faire. On veut vraiment avoir une vision qui est pragmatique de la situation. Il y a des personnes qui sont dans une grande difficulté et le rôle des pouvoirs publics, c'est d'être à leur côté le plus rapidement possible. On a souvent le temps politique qui est déconnecté du temps économique. On veut répondre au temps économique et répondre rapidement.
Un avis partagé par la présidente de la province sud, Sonia Baquès. Ces aides exceptionnelles fournies par la province doivent aider les entreprises à tenir le coup le temps que l'économie reprenne sur le territoire. Écoutez Sonia Baquès.
La machine, elle se relance déjà, puisqu'on lance la reconstruction publique, on remet des investissements, il y a les assurances qui petit à petit débloquent les dossiers d'indemnisation. Donc les choses repartent, mais c'est évidemment poussif, parce que les choses ont été tellement détruites que c'est très long. Donc nous, on réfléchit à comment on peut avoir les mesures les plus appropriées pour essayer de tenir cette période-là, pour que quand l'activité aura repris son cours normal, tant mieux, ça tournera tout seul. Mais comment on fait pour faire ce petit plus? La province a des possibilités de le faire. On est en train de travailler sur des aides spécifiques qui vont passer à la fin du mois d'avril à la province. Et le gouvernement a tout le levier fiscal à sa disposition.
Une troisième et dernière rencontre a été organisée avec l'entreprise CLPI, une société spécialisée dans la lutte contre les incendies. Elle est aussi située à Ducos, lieu qui, je le rappelle, a été une des premières victimes des exactions de l'année dernière. Les institutions et collectivités publiques soumises à des coupes budgétaires. La province sud intensifie ses efforts de réduction des coûts de fonctionnement en attendant la concrétisation des annonces financières de l'État. L'objectif de ces économies est une meilleure redistribution via l'investissement public au profit des usagers. La collectivité va donc faire une économie d'1 milliard de francs sur sa masse salariale en, par exemple, ne renouvelant pas 3 départs sur 4, mais aussi en réduisant les horaires d'accueil de certains de ses services. La collectivité a également voté en faveur d'un ticket modérateur accru sur les dépenses d'aide médicale à hauteur de 10% et 20%, sauf pour les longues maladies, les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 ans. Du nouveau dans le secteur touristique, Christopher Gigès est le nouveau président de Nouvelle-Calédonie Tourisme. Il succède ainsi à Michael Forest au poste. Et avec cette nouvelle présidence, NCT devrait prochainement changer de nom et évoluer dans ses fonctions. Auparavant, l'agence faisait uniquement la promotion du tourisme à l'international. Christopher Gigès souhaite désormais y associer le secteur privé et par cette occasion attirer les investisseurs et les consommateurs en prenant des mesures incitatives en faisant valoir les atouts du territoire. Retour à la normale à Marée. La direction des télécoms de l'OPT informe ce matin les usagers que l'incident qui a impacté le réseau mobile hier sur l'île est désormais résolu. L'origine de la panne a été identifiée. Il s'agit d'un acte de vandalisme sur le réseau électrique d'Enercal. C'était aux alentours de midi hier. Grâce à la mobilisation conjointe des équipes de l'OPT et d'Enercal, les services ont finalement pu être rétablis quelques heures plus tard, juste après 16h30. Et puis revenons sur sur cet accident hier à l'UNC qui a fait 4 blessés. 3 d'entre eux sont sortis de l'hôpital, mais la personne plus gravement touchée a passé la nuit au CHT. Selon les dernières informations, l'accident a été provoqué par la mauvaise manipulation d'un réchaud par les employés d'un prestataire de service qui assurait la préparation d'un déjeuner pour les participants à un colloque international. Les blessés sont des employés du prestataire. Justice et deuxième journée de procès aux assises concernant une affaire de meurtre sur conjoint. En 2022 à Nouméa, un homme a été accusé d'avoir assassiné à l'aide d'un objet contondant sa compagne, mère de ses deux enfants, après une dispute. Il aurait laissé plusieurs heures la victime baignée dans une mare de sang avant d'appeler les secours. Hier, la majeure partie de la journée a été consacrée à la prise de parole de l'accusé au compte-rendu du médecin légiste. Les témoignages de la famille et de l'entourage ont continué aujourd'hui et devraient se poursuivre demain. Et si le procès devait initialement durer 3 jours, il n'est pas exclu qu'il continue ce week-end au vu de la complexité de l'affaire. Les salariés licenciés de Carrefour étaient reçus ce matin en audience au tribunal du travail. Ils sont près de 200 à contester la rupture de leur contrat de travail pour cas de force majeure et réclament des indemnités ou des reclassements. Jean-François Baudin.
Rupture de contrat consécutive évidemment à la destruction complète du Carrefour Kenwin au début des émeutes de mai 2024. Les salariés ont été reçus ce matin pour exposer les motifs de leur demande. Pour l'instant, il s'agit d'une procédure de conciliation. La direction de Carrefour s'est dite ouverte à une négociation et un calendrier a été mis en place pour cela. La direction de Carrefour a jusqu'au 20 septembre pour faire des propositions sur la demande des salariés qui auront à leur tour jusqu'au mois de mars 2026 pour les étudier et les accepter ou non. Si cette procédure de conciliation se révélait infructueuse, le tribunal pourrait prononcer un jugement au mois de juin 2026.
Au tribunal administratif, c'est le dossier de l'attribution des bourses scolaires par la province sud qui était examiné.
Un double recours avait été formulé, l'un par l'UGPE, l'autre par Philippe Michel. Il s'agit de demander le retrait de la délibération de la province sud qui instaure un minimum de 10 ans de résidence en province sud aux familles qui sollicitent une bourse scolaire pour leurs enfants. Le rapporteur public a conclu au rejet de la demande de l'UGPE et de Philippe Michel. Le jugement définitif sera rendu sous 3 semaines.
Et le tribunal administratif étudiait également, à la suite du recours déposé par le Haut Commissariat, le cas de 28 agents contractuels de droit public engagés par la province des Îles Loyauté. Le rapporteur public a conclu à l'annulation de leur acte d'engagement. Le jugement définitif sera également rendu sous 3 semaines. Et on reparle de l'affaire du drapeau Kanak sur les permis de conduire. Le tribunal administratif avait condamné le gouvernement à le retirer depuis le 18 juillet dernier, mais cela n'a pas été suivi d'effet.
Et toujours lors de l'audience de ce matin, le rapporteur public a constaté ce refus d'appliquer la loi et il a demandé au juge d'exiger du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le paiement de l'astreinte qui se monte au 20 mars à 7,9 millions de francs. Pour Génération NC qui est à l'origine de ce recours, le refus de Gilbert Huénon, membre du gouvernement en charge du secteur, d'appliquer la loi, incarne la menace que représentent les extrémistes indépendantistes pour l'avenir des Calédoniens. Génération NC qui demande une nouvelle fois au président du gouvernement de prendre ses responsabilités et de mettre un terme aux agissements illégaux de Gilbert Huénon sous peine de continuer de faire payer les Calédoniens. Fin de citation.
Merci Jean-François Baudin. Il est 18h02, on va marquer une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Calédonie. À tout de suite.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1 500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance!
Vous avez besoin de conseils pour faire travailler votre épargne, payer moins d'impôts, préparer votre retraite? Nous sommes là pour vous guider. Avec Caplif, développez votre patrimoine pour construire votre avenir. Contactez Caplif au 28 30 00, RIAS 170 052, ORIAS 13 103.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La Sud-Nef au soir, Léana Colombo.
et le Rassemblement s'engage dans l'élection du président des Républicains qui aura lieu les 17 et 24 mai. Il s'agira de départager les deux candidats, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Ce matin, le Rassemblement présentait les modalités de cette élection et l'organisation de la campagne. Jean-François Bodin.
Deux candidats pour la présidence des LR et deux référents pour le Rassemblement qui est en Nouvelle-Calédonie, le parti affilié aux Républicains. Ses dirigeants parlent d'une échéance cruciale et rappellent que la droite républicaine a toujours défendu une Calédonie dans la France. Pour participer à cette élection du président des Républicains, il faut être à jour de sa cotisation au 10 avril. Et le secrétaire général du Rassemblement, Jordan Courteau, appelle les militants et sympathisants à se mettre à jour.
Le message aujourd'hui, c'est adhérer, renouveler. Les adhésions pour pouvoir voter à cette élection, ça s'arrête le 10 avril. Donc c'est très important à chacun de se rapprocher de nous, donc à la permanence, de nous contacter pour pouvoir participer à ce vote qui est majeur, parce qu'on va quand même choisir le leader de notre droite républicaine pour cette élection et sans doute qui aura un gros impact sur les prochaines échéances nationales et éventuellement même locales.
C'est un vote électronique, il y aura une assistance de votre part pour les électeurs?
Oui, bien sûr, c'est un vote qui se fait de manière électronique. Les LR vont nous envoyer par courrier donc les identifiants. Des fois, il y a des petits couacs parce qu'effectivement, le courrier en Nouvelle-Calédonie, par moment, c'est un peu compliqué. Donc, on est en train de tout mettre en œuvre pour pouvoir avoir aussi un backup par mail et par SMS pour que tout le monde puisse participer. Et comme des fois, c'est compliqué pour certains, on va mettre en place des bureaux de vote délocalisés à Nouméa où on sera présent toute la journée du vote, c'est-à-dire le dimanche. Et on va aussi faire une assistance téléphonique pour les gens qui sont effectivement hors de Nouméa ou hors de l'agglo.
Le Rassemblement qui compte aujourd'hui 1022 adhérents à jour de cotisation et qui appelle ceux qui veulent participer à cette élection du président des Républicains à se mettre à jour d'ici le 10 avril pour pouvoir voter les 17 et 24 mai. Les deux candidats, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, sont présentés comme deux personnalités de grande qualité et d'une droite affirmée. Mais le Rassemblement ne prend pas parti. Il a nommé deux référents qui défendront chacun les couleurs de l'un des candidats. C'est Gilles Castor, secrétaire de la section du Rassemblement de Dombéa, qui défend la candidature de Bruno Retailleau.
Pour moi, son engagement actuel et sa politique nous démontrent au quotidien un vrai déterminisme. Et il a en plus une vraie expérience politique acquise, notamment au Sénat, mais aussi en tant que député et ensuite comme président de région, ce qui lui confère vraiment des atouts majeurs pour accompagner notre parti dans l'horizon 2027, bien sûr, puisque en 2027, on sait que l'échéance in fine, ce sont les élections présidentielles. Donc pour moi, c'est la personne requise à ce poste. Il est en plus un poste ministériel en ce moment, ce qui lui permettra de pouvoir nous démontrer au fil des années jusqu'en 2027, son accompagnement de la droite républicaine. C'est quelqu'un qui connaît le territoire et c'est quelqu'un qui saura nous accompagner dans les échéances qui vont se présenter à nous. Sa position, effectivement, en plus proche de l'exécutif de la République, nous permet d'avoir un vrai relais sur la métropole.
Et c'est Ludovic Talia, responsable de la section jeune du Rassemblement, qui est lui le référent de Laurent Wauquiez.
Déjà, c'est une personnalité bien connue en Nouvelle-Calédonie qui a trois principes fondamentaux ancrés dans la droite républicaine, qui sont l'autorité, le travail et le mérite. Et je pense qu'en tant que jeune calédonien, on a besoin de revenir à ces fondamentaux-là, surtout après ce que nous avons vécu en Nouvelle-Calédonie. C'est important de remettre l'église au centre du village, comme on dit, pour pouvoir avancer vers le bon sens. C'est des valeurs qui sont universelles et dans lesquelles je me retrouve.
Des propos recueillis par Elisabeth Noir. Une campagne va être organisée en interne avec un temps fort le mercredi 2 avril. Une visioconférence aura lieu à la permanence du Rassemblement avec un entretien de 45 minutes avec chacun des deux candidats qui répondront en direct aux questions des adhérents.
L'UNC a dressé le bilan de la rentrée 2025. L'université enregistre une baisse de 335 étudiants, soit 12% d'inscriptions en moins par rapport à la même période l'an dernier. En tout, 2653 étudiants fréquentent les bancs de l'université. L'université qui a mis tout en œuvre pour éviter le décrochage après les violences de mai. Et la présidente de l'UNC, Catherine Ries, espère que certains étudiants s'inscriront encore au cours des prochains jours.
Une grande partie s'explique par des étudiants qui ne se sont pas réinscrits dans nos formations. Beaucoup d'entre eux étaient des étudiants qui étaient l'année dernière en première année, qui, pour des raisons qu'on peut très bien comprendre, n'ont pas pu valider leur année l'année dernière et qui, contrairement aux autres années, ne se sont pas réinscrits aussi nombreux pour reprendre une première année cette année. Forcément, les étudiants, au vu de la conjoncture économique et du contexte, ont plus de difficultés à payer, à s'acquitter des droits d'inscription, des droits CAFAT. C'est pour ça qu'on a mis en place des dispositifs qui permettent de payer en plusieurs fois dans un contexte économique difficile. C'est un coût, les études, c'est un investissement. Ça explique aussi que les inscriptions vont peut-être encore arriver, ils sont plus tardives. On rappelle aussi les étudiants par téléphone pour leur rappeler qu'ils ont la possibilité de toujours s'inscrire à l'université.
L'université, vous le savez, a pour objectif de rayonner à l'international, mais les événements de 2024 ont eu un impact très négatif sur l'attractivité de l'UNC. On retrouve Catherine Riss.
On continue à promouvoir la Nouvelle-Calédonie comme une destination scientifique. C'est de permettre à l'université d'être à cette ouverture sur le monde, que nos étudiants, nos collègues aient accès évidemment à des formations, à des recherches, à des partenariats un peu partout dans le monde. Évidemment, cette politique d'ouverture et d'internationalisation a été mise à mal également avec la situation politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, mais on travaille à toujours pouvoir permettre à nos étudiants de partir, d'avoir cette expérience à l'international. Et on l'espère aussi très rapidement pouvoir à nouveau accueillir des étudiants étrangers et puis des collègues, des universitaires, des pays de la région. Et évidemment, pour les pays étrangers, pour les universités étrangères, prendre la responsabilité de faire venir des collègues ou des étudiants en Nouvelle-Calédonie, c'est une responsabilité qui est assez lourde et que certains ne prennent pas aujourd'hui pour des raisons qu'on peut comprendre.
Pas de changement sur les filières qui attirent. Ce sont toujours les filières scientifiques et techniques qui ont le plus de succès, avec le plus d'étudiants et 762 inscriptions. Viennent ensuite les diplômes en économie et gestion, et ensuite les filières des lettres et des langues et les sciences humaines. Et notez que demain, nous parlerons avec notre invité du matin du projet FALA, portant sur l'agriculture familiale et l'évolution des modes de vie et la santé, soutenu par l'Université de Nouvelle-Calédonie. Nous recevrons à 7h30, Jean-Marie Fautzing, professeur des universités en géographie et porteur scientifique du projet FALA. Un état des lieux du secteur du commerce, c'était le thème des jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu ce midi. Un secteur qui souffre aussi fortement depuis les émeutes de mai 2024, Jean-François Bonin.
Oui, comme de nombreux secteurs, le commerce rencontrait déjà des difficultés, notamment depuis la crise Covid. Mais le 13 mai a généré une crise qui a supplanté au centuple la situation qui existait avant. Et ce n'est pas sans conséquence sur l'ensemble de l'économie calédonienne au regard du poids que représente le secteur, a souligné Isabelle Coupé, la directrice générale adjointe de la CCI.
Le secteur du commerce, c'est un secteur qui est important pour notre économie. C'est l'équivalent de 10% du PIB, donc c'est conséquent. C'est aussi un secteur qui permet de récolter l'équivalent de la moitié des recettes fiscales, donc évidemment un contributeur au territoire conséquent. Et qui, et là aussi c'est très important, est un des premiers employeurs dans le secteur privé, avec 10 000 emplois avant la crise, et on sait qu'on a déjà perdu quasiment l'équivalent de 20%. Donc on voit que c'est un secteur important et qui a évidemment beaucoup souffert pendant les émeutes, et notamment aussi parce que c'est un secteur qui est très concentré sur le Grand Nouméa, donc par définition qui a été très exposé au mois de mai.
Les acteurs du commerce sont dans l'incertitude. Il est actuellement impossible de se projeter sur une reprise du marché. C'est notamment vrai dans le secteur de l'automobile, a expliqué Laurent Jandot, le président de l'Association des concessionnaires automobiles.
Le problème n'est pas tant aujourd'hui dans ce qui a été détruit, mais dans ce qu'on voudrait reconstruire. Nous sommes, pour certains, quasiment prêts à reconstruire, simplement pas sans un marché minimum.
C'est-à-dire reconstruire, mais dans quelle proportion, dans quel volume ?
Alors ça reste à déterminer, mais au moins reconstruire, c'est-à-dire être disposé à offrir à nouveau aux consommateurs éventuels des produits comme on les proposait avant. Mais pour ça, il faut un marché minimum. Donc on est motivé, on est prêt, on cherche à se réinventer, on cherche des solutions pour attirer les clients qui restent sur le territoire. Mais sans un marché minimum, la reconstruction va poser problème. Sur septembre, octobre, une légère amélioration pouvait nous laisser penser que dans X mois, on pourrait arriver à revenir à des quantités acceptables, et janvier, février reprennent un chemin inverse où là, on retombe dans des volumes à la baisse.
Le départ d'un certain nombre de personnes de Calédonie affaiblit encore les possibilités de reprise rapide du commerce, et en plus des pertes de chiffre d'affaires liées aussi à une baisse de pouvoir d'achat de nombreux Calédoniens qui ont perdu leur emploi. Les commerçants peinent à calibrer le renouvellement de leur stock, a expliqué Ronan Délé, le président du syndicat des commerçants.
Compte tenu de l'éloignement de la Nouvelle-Calédonie, lorsque nous passons commande, c'est pas comme si un commerçant en France va passer commande, il est livré la semaine d'après, il arrive à gérer son stock un petit peu à la semaine. Nous, une commande qui arrive par bateau, il faut quasiment compter 3 mois. Et lorsqu'on passe des commandes de saison, que ce soit dans la mode ou alors pour des véhicules, imagine, c'est des mois à l'avance que l'on passe cette commande. Donc comment pouvoir se projeter sur un marché aussi friable et incertain que celui sur lequel nous travaillons, des mois à l'avance? Donc le chef d'entreprise doit gérer au mieux sa trésorerie, ses stocks. Il ne peut pas commander comme il le ferait dans une période de certitude, je dirais, propice comme nous avons connu avant. Et ça rend son travail beaucoup plus compliqué aujourd'hui.
Les trois participants au jeudi de l'économie qui sont disponibles en réécoute sur notre site internet ont également estimé que sans certitude sur l'avenir institutionnel, les perspectives de reprise dans le commerce restaient incertaines.
Il est 18h14, on se retrouve après une seconde pause.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Anna Colombo.
Et c'est l'actualité dans la région. En Australie, des pluies torrentielles continuent de s'abattre dans le Nord Queensland, où elles ont à nouveau causé de graves inondations, tout comme cela avait déjà été le cas début février. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Un record vieux de 27 ans a été battu hier à Townsville, qui a reçu 301 mm de pluie en 24 heures. Le même scénario a été observé le long de la côte du Nord Queensland, où, tout comme à Townsville, les pluies torrentielles de ces deux derniers jours ont causé partout de graves inondations. Tel a notamment été le cas à Ingham et Halifax, tandis qu'une station météo automatique a enregistré 351 mm de pluie en 24 heures à Magnetic Island. Un peu partout, les habitations qui avaient été inondées en février l'ont été à nouveau et des centres d'hébergement ont été ouverts en vue d'accueillir d'éventuels sinistrés. Les principaux axes routiers de la région ont, quant à eux, été fermés au trafic en raison des crues. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, 68% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que Donald Trump et Vladimir Poutine vont réussir à conclure un accord de paix concernant l'Ukraine. Ils sont 32% à penser qu'ils ne vont pas y parvenir. Et voici notre question du jour. Pensez-vous que la sélection calédonienne de football peut se qualifier pour la Coupe du Monde? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. Restons dans le sport et le football dans la région. J-1 avant la demi-finale des qualifications pour la Coupe du Monde. Demain à 13h, heure de Nouméa, la sélection calédonienne défiera Tahiti au Sky Stadium de Wellington. Le vainqueur obtiendra son billet pour la finale et affrontera lundi le vainqueur de l'autre demi entre la Nouvelle-Zélande et les Fidji. Le grand vainqueur participera à la Coupe du Monde 2026. Et puis du tennis, ensuite deux Calédoniens engagés sur le circuit ITF. Leilani Ipounesso est en Australie, Maxime Chazal en Espagne. Le Calédonien dispute le M25 de Badalona au nord de Barcelone. Tête de série numéro 6 du tournoi, il affrontera ce soir à 19h30 le Vénézuélien Ignacio Parisca, issu des qualifications. Leilani Ipounesso, elle, était engagée sur le W35 de Swan Hill dans le Victoria en Australie. Malheureusement, elle s'est inclinée en 2-7, 6-3, 6-4 face à Gabriela Da Silva Fic, tête de série numéro 3. Et à noter que Caroline Delaunay s'est également inclinée hier au premier tour de ce même tournoi. C'était face à Elena Micic, tête de série numéro 2. Il est 18h18, on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménagé.
Les couleurs du ciel, c'est avec vous Nicolas.
Alors, cette nuit, un voile de nuages élevés s'installera sur le territoire. Sur le nord-ouest, quelques averses s'attarderont en soirée. Puis le temps s'assèchera avant le retour en fin de nuit de quelques gouttes sur l'extrême nord. Sur la façade est, l'extrême sud est aux loyautés. La nuit sera ponctuée de faibles averses. Ailleurs, le temps restera sec. Le vent d'est-sud-est se maintiendra entre 15 et 20 nœuds, mais mollira progressivement entre 10 et 15 nœuds sur l'ouest, voire entre 5 et 10 nœuds par endroit sur le nord-ouest. Les températures minimales oscilleront entre 21 et 25 degrés. Demain matin, le voile de nuages d'altitude s'épaissira, mais le temps restera plus lumineux sur la côte ouest. Sur la façade est, le nord et aux loyautés, les nuages prédomineront et seront toujours porteurs d'averses isolées. L'alizé de sud-est s'établira entre 10 et 15 nœuds, localement sur la pointe nord-est entre 15 et 20 nœuds. Sur l'ouest, il restera plus faible entre 5 et 10 nœuds.